Bonjour, vous écoutez Parler de nos vies, le podcast inspiré et inspirant pour vibrer un peu plus chaque jour. Je suis Emmanuelle Amey, coach professionnelle, blogueuse, slasheuse et curieuse. Je vous emmène avec moi dans mes découvertes, mes réflexions, mes interviews. Dans ce 12e épisode, je suis allée à la rencontre de Léa Camilleri. Je n'ai pas eu à faire beaucoup de route, c'est ma voisine. Je la retrouve chez elle. Joe le cocker est pas bien loin. Elle fait partie de cette nouvelle génération de youtubeuses, métier encore inexistant dans les classeurs des conseillers d'orientation, mais qui met quelques étoiles dans les yeux de nos enfants. J'ai eu envie d'en savoir plus sur ce qui l'a amenée là. Léa prend le temps de se dévoiler et elle me confie même 2-3 scoops de dingue. Léa, c'est la bonne copine que l'on a envie d'avoir, c'est la grande sœur des enfants d'aujourd'hui et la petite sœur des cadras comme moi. Nous évoquons ensemble les opportunités qu'elle a su saisir, sa passion pour la vidéo, ses envies de voyage, sa conscience écologique. Et puis, elle me parle aussi de sa préoccupation, de ne pas se perdre et de garder l'essence même de ce qui l'anime, le partage. Léa voulait être factrice, petite fille. Aujourd'hui, elle informe, elle alerte, elle nous fait voyager et réfléchir tout en humour et en beauté. Allez, c'est parti. Je vous laisse avec Léa Camilleri.
Salut Léa.
Salut.
Mais alors, Léa, on est chez toi, il y a Joe qui est là.
On est chez moi, c'est un très grand manoir de 85 000 mètres carrés.
J'ai mis du temps à te trouver. D'ailleurs, Colette, je ne sais pas où elle est parce que c'est trop grand.
Colette est très peureuse, donc Colette est dans une partie de mon manoir, à la pièce d'à côté, sous le lit, je pense.
Joe est sur la chaise, il nous regarde, il participe.
Il participe en dormant. C'est vraiment la meilleure des participations.
Bon, mais Léa, qui es-tu?
C'est une très bonne question.
Parce que moi, je te connais. Tu étais ma voisine de manoir.
Oui.
Il y a plein de gens qui te connaissent aussi sur Instagram, YouTube. Mais qui es-tu pour ceux qui ne connaissent pas?
Qui suis-je? Oh là là, c'est vrai que c'est difficile comme question. Alors, je suis avant tout pour toi ta voisine.
Ouais.
Je suis une femme de 32 ans. Et actuellement, je fais des vidéos sur Internet, je voyage beaucoup, j'essaye de raconter des jolies histoires autour du monde et de parler un petit peu aussi d'environnement.
Ouais, et quand on te demande quel est ton métier, tu sors toutes ces phrases ?
Non, quand on me demande ce qu'est mon métier, je galère vraiment beaucoup parce que les gens ont inventé des mots pour nous, pour notre profession. Moi, je suis OK avec tout, mais du coup, il y a YouTubeur. Ce qui me paraît légitime, c'est vrai que je poste sur la plateforme YouTube. Instagrammeur, je poste aussi sur la plateforme Instagram. Créateur de contenu, je pense que ça a été une phrase inventée pour pas nous froisser,
ouais.
pour dire qu'on fait des choses. Et je crois que c'est un peu... Ou influenceur aussi.
Inspirateur, moi j'ai... j'entends...
Inspirateur un...
C'est proche d'aspirateur.
Ah ouais, j'ai jamais entendu. Mais en vrai, tout me va. Je suis, voilà, j'ai pas besoin moi personnellement d'étiquette, mais si ça peut rassurer quelqu'un et mieux aider à faire comprendre mon travail, ça me va.
Ouais.
Donc je suis tout ça.
Tu es tout ça. Tout ça, n'importe
tout
quoi.
Tout ça.
Et quand tu étais petite, tu voulais faire quoi toi?
Quand j'étais petite, je voulais être facteur.
Ah bon?
C'est improbable.
Tu voulais apporter des bonnes nouvelles?
Je ne sais pas du tout, mais sur mes dessins, je me représentais en facteur et aussi princesse. Et du coup, tu vois, les deux métiers ne sont pas incompatibles, mais j'ai réussi ni l'un ni l'autre.
Et pourquoi facteur, tu te rappelles?
Mais non, je ne me rappelle pas, je sais juste que je voulais être facteur, mais c'était très 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 tôt. Hein.
Mais tu avais un facteur, donc tu n'étais pas parisienne, peut-être que tu avais un facteur qui était libre en vélo
Je sais, oui, bah après j'habitais dans la campagne toulousaine, et je ne sais pas, ça avait l'air tellement cool d'être facteur.
C'est ça, parce que moi je suis parisienne, les facteurs ils viennent avec sa camionnette, c'est pas très
glamour,
tu vois.
Non, non, ils avaient des petits vélos, et puis je ne sais pas, alors que je n'avais pas de contact du tout avec la factrice ou le facteur. Mais je trouvais ça trop cool. Je les trouvais badass, les facteurs. Et puis, ça m'est passé très, très vite.
T'aimais bien écrire des lettres ?
J'aimais bien écrire des lettres, ouais. J'aimais vraiment ça. J'étais fan des cartes postales. J'adorais en acheter pour pouvoir écrire plein de trucs.
Peut-être que c'était un peu les voyages qui étaient déjà présents ?
Peut-être. On était plus sur des cartes postales qui venaient d'Ardèche.
Attends, donc... quand tu dis, c'était l'autre bout du monde, peut-être.
Peut-être. Non, mais ouais, c'est vrai que j'aimais bien ça. Et j'avais jamais fait le lien, mais bon, c'est peut-être ça. Mais ça m'est passé très vite, hein, soyons honnêtes. Et princesse, ça m'est passé extrêmement vite aussi.
D'accord. Et après, t'as voulu faire quoi
Et après quoi, en grandissant
Bah ouais, quand t'es, ouais, genre au lycée, quand on te demandait le métier que tu voulais faire plus tard,
Ah
c'était plus
ouais.
facteur, hein, j'imagine.
Bah alors, c'était très compliqué parce que au collège, primaire, j'étais bonne élève. Collège, j'étais hyper moyenne. Genre vraiment, la moyenneté en tout. C'était terrible parce qu'il n'y avait pas un endroit où, tu vois, ça allait mieux que l'autre. Du coup, je savais pas trop quoi faire de ma peau. Je me disais, mais les autres, ils sont bons quelque part en sciences ou en maths ou peu importe. Donc, leur voie est tout tracée. Et puis, la conseillère d'orientation m'avait proposé, après la troisième, enfin, après la troisième, d'être dans un métier de l'artisanat, un truc comme ça.
Ouais.
Et je m'étais dit, mais je sais
Et ça avait aucun sens, tu
pas.
faisais pas du
Ben
tout de
non, du tout,
poterie,
du tout.
de macramé.
Non, je portais un t-shirt Jurassic Park. J'étais loin de tout ça. Et en fait, je l'ai trouvé toute seule. C'est que mon grand frère faisait des études de graphisme dans une école. Et comme on a grandi ensemble et qu'on a que 3 ans de différence, et ben, je me suis dit, mais moi, j'aime tout ce qu'il fait. Donc, j'ai envie de faire la même école. Et j'avais envie d'être avec lui. Donc, du coup, juste après la troisième, faut savoir que c'est quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Je n'ai pas eu mon brevet.
Scoop. Oh putain,
Ouais.
Léa n'a pas son brevet.
Tellement moyenne que j'ai pas eu mon brevet. Et je suis partie directement. L'école de mon frère, l'école de graphisme, a quand même bien voulu me prendre.
C'était
Et
dès la seconde?
après la troisième, ouais.
D'accord.
Et j'ai choisi de faire de l'alternance par-dessus le marché. Du coup, je me suis lancée dans un BEP communication visuelle qui existe à Toulouse. Et donc, à partir de. J'avais quoi? Peut-être 16 ans quand on sort de la troisième, un truc comme ça.
Un peu plus
Ouais,
jeune, peut-être même.
15-16 ans. Et ben, je me suis retrouvée en alternance dans une agence de communication et à l'école le reste du temps.
Et tu dirais de toi que tu étais mature à l'époque ou tu étais un bébé qui allait dans le monde du travail?
J'ai l'impression que j'étais entre les deux parce que, avec du recul maintenant, je me dis que j'ai débarqué dans le monde du travail et dans un monde très spécial parce que la communication, les agences de pub, c'était tout nouveau pour moi, même si je voulais ça, je le voulais vraiment. Mais j'ai l'impression que ça m'a fait grandir très très vite, de côtoyer des gens qui n'ont pas
Bah,
du tout mon âge
j'imagine.
et de devoir vite aussi apprendre parce qu'on a besoin de toi et que chaque maillon dans une agence est très important. Donc, c'était trop cool parce que je pense que c'est pile poil ce dont j'avais besoin.
Ouais.
Et puis à l'école, je me sentais en décalage. À l'école, j'avais l'impression que les cours étaient trop bas pour mon niveau. C'était trop bizarre parce que moi, à l'école, justement, j'avais l'impression d'être trop basse pour le niveau avant. Et donc, c'était un peu satisfaisant, autant que j'avais l'impression de traîner un peu de la patte, quoi.
Tu veux dire qu'au collège, tu te sentais un peu en difficulté à la traîne et une fois
Ouais.
que tu es partie dans cette école, tu étais en zone de confort.
Bah, je me sentais limite. Je me disais, c'est un peu trop facile parfois.
Ouais.
Donc, ça te rassure autant que t'aimerais que ça avance plus vite. Donc, je me suis quand même plus attachée à la vie en entreprise qu'à la vie à l'école. Et j'ai eu mon diplôme 2 ans plus tard.
Et ton frère aussi, il m'a fait dès la seconde cette école, enfin après la troisième.
Je crois. Non. Non, lui, il est quand même allé au lycée.
Ouais.
Mais il était 3 classes au-dessus de moi, du coup. Donc, on était quand
D'accord.
même dans la même école, on se voyait, mais on n'avait pas du tout les mêmes cours. Et j'étais super fière. J'étais super fière d'être dans la même école que mon frère. Je sais pas pourquoi.
Et tes parents, ils ont réagi comment quand tu as dit que tu voulais partir? Enfin, partir du système scolaire classique.
Je pense que de toute façon, ils ont vu l'évolution se faire et que j'étais pas du tout à l'aise dans le système scolaire classique. Du coup, je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix. À partir du
Ouais.
moment où j'ai trouvé, moi, une solution qui me convenait, hors de ce que m'avait proposé la conseillère d'orientation, je pense qu'ils se sont dit, c'est pas si bête, ils seront tous les deux, et pour Tristan ça marche, donc Tristan c'est mon frère, donc il n'y a pas de raison que pour Léa ça marche pas. Et j'avais réussi à trouver une alternance, ça c'est compliqué aussi, mais moi j'avais réussi à la trouver super vite, parce que dans ma famille il se trouve que quelqu'un possède une agence de communication qui voulait bien m'accueillir, donc tout s'est fait assez facilement, donc j'ai eu de la chance, mais j'ai aussi poussé pour la première fois de ma vie une petite porte en me disant c'est celle-là que je veux quoi.
Non mais là, enfin, tu me racontes ça, moi je te trouve super des merdes en fait.
C'est la débrouille totale, mais il y a un
T'étais
instinct de
un
survie
bébé
quand
des
même.
merdes. Bah instinct de survie.
Et ouais, mais je pouvais pas aller au lycée classique.
Ouais mais t'aurais pu. Enfin tu vois, moi dans la même situation, je pense que je me serais laissée porter par les relations de mes parents. J'étais pas du tout assez mûre pour voir ce que je pouvais faire moi.
Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment fait exprès, ni j'ai pas le sentiment d'avoir été débrouillarde plus que ça.
C'est toi qui as trouvé le stage, tu dis, en alternance dans ta famille?
En fait,
C'est toi qui as téléphoné?
j'en ai parlé et j'en ai parlé à mes parents. Il se trouve que le meilleur ami de mon père avait monté une agence de communication il y a longtemps, spécialisée dans l'institutionnel et qui voulait bien me rencontrer. Enfin, me rencontrer, c'est quelqu'un que je connais bien, mais qui voulait bien qu'on se rencontre pour qu'on en parle. Et ça s'était bien passé, donc il m'avait pris. Donc je pense que j'avais induit l'idée, que mes parents ont été chauds pour m'aider. Mmh. Donc, j'ai pas du tout été lâchée dans la nature, mais c'était mon choix. C'est vrai que c'est un premier vrai gros choix.
Un troisième, hein.
Et que je regrette pas du tout.
Et qu'est-ce qui était compliqué pour toi au collège? Tu dis que tu n'étais pas adapté au système, c'était quoi le problème?
J'ai du mal à le savoir encore aujourd'hui, je trouvais juste que je fitais pas dans... Alors j'étais pas du tout exclue de la vie du collège, j'avais un groupe de copines hyper populaire. Moi j'étais pas populaire, mais j'étais la copine des filles populaires. Et ça me suffisait tellement. J'étais juste marrante et je pense que ça leur plaisait. Et j'avais développé cette arme de faire des blagues et d'être positive tout le temps pour être avec ces gens-là parce que je les trouvais trop cool. Donc j'étais entre deux, j'étais pas très bonne élève mais tout le monde s'en foutait. Parce qu'à côté de ça, j'avais peut-être une personnalité un peu cool qui faisait qu'on s'arrêtait pas qu'à ça. Mais je suis partie un petit peu d'outsider en début de sixième à plutôt être dans les gens cool en fin de troisième, mais j'étais pas cool, attention, j'étais avec des gens cool. Donc j'ai jamais réussi vraiment à fitter dans un groupe ou dans un autre. Je me sentais un peu à part, c'était très étrange.
Et les cours, ça te plaisait pas?
Ça me plaisait, mais j'avais l'impression que c'est trop bizarre avec du recul maintenant de me dire que j'avais pas forcément les capacités pour. Tu vois, t'avais pas d'alternative à l'époque. Si t'étais pas bon, c'est que t'y arrivais pas parce que tous les autres y arrivaient, donc il y avait pas de raison que toi t'y arrives pas. Maintenant, ça s'est vachement démocratisé. On essaye de mieux orienter ceux qui n'ont pas tout à fait les mêmes capacités. Je pense que j'avais un problème de concentration aussi.
Mais c'est ce que j'allais dire. Enfin, au regard de ce que je comprends de toi. De ce que je vois de ta vie aussi, je te vois pas sur une chaise du lundi au vendredi, quoi. T'as besoin d'expérimenter, d'aller toucher, d'aller rouler, d'aller grimper, d'aller courir.
Bah oui, sauf que ça on te le propose pas. C'est vrai que maintenant je me considère pas comme quelqu'un de pas intelligent du tout. En fait, j'ai vite compris qu'il fallait que je m'enlève ça de la tête parce que c'est ce que plein de gens me faisaient ressentir et au final c'est pas vrai, c'est juste que j'avais un temps de concentration qui était autre, j'avais une façon de comprendre les choses qui était autre et une méthodologie qui était autre, et je l'ai compris en grandissant. Maintenant il y a des mots là-dessus, j'ai aussi une petite forme d'hyperactivité qui fait que parfois pour ma concentration c'est compliqué, mais j'irai pas jusqu'à dire que j'ai un TDAH, mais j'ai une forme de concentration et une façon de fonctionner qui est parfois un peu différente et qui ne me fait pas rentrer dans le cadre normal de la scolarité. Mais ça a été un peu dur parce que je me sentais bête. Vraiment, je me sentais teubée au collège et ça me faisait souffrir.
Et quand tu t'es retrouvée en entreprise, là, tu t'es sentie plus à ta place? Tu pouvais bouger? Déjà, ça bougeait d'une semaine sur l'autre avec l'alternance?
Bah ouais, c'était trop bien. Je me sentais grande, je me sentais importante. Même on pouvait me faire classer des dossiers. Mais je me disais, mais c'est trop bien, j'avais l'impression d'être dans un film, c'était trop cool. Et puis, je commençais à avoir un tout petit peu d'argent, parce que quand t'es en alternance, je crois que c'était 153 euros à l'époque. T'as quand même
un... T'étais déjà aux euros, toi?
Ouais.
Oh, putain. Eh
ouais, des os. Des os. Mais c'était tout petit, mais j'étais tellement heureuse d'avoir, pour la première fois de ma vie, ma première paye. 153 euros, c'était énorme. Je me rappelle, c'était fou. Donc, c'était l'indépendance, quoi.
T'en as fait quoi de cet argent de poche?
Mon premier salaire, je me suis acheté une veste pour l'hiver. Et c'était une veste genre d'oro tennis, un truc pour le ski, quoi. Mais j'étais trop fan. Je me disais, elle est trop belle. Maintenant, quand je la vois, je me dis, c'est vraiment juste un truc de ski, tu vois. Mais à l'époque, on achetait un peu les trucs de sport. Et je l'ai toujours. Elle est chez ma mère et... Et c'est trop marrant quand je la regarde, je n'ai aucun doute, c'est ma première paye, quoi.
Ouais.
Mais elle est trop cool. Mais bon, je la mettrai pas là maintenant, je pense qu'elle serait trop petite, mais...
Mais t'aimais le sport ?
J'en faisais pas des matchs, j'en faisais plus quand j'étais au collège. Non, après, bah justement, tu rentres dans la vie d'entreprise, tout ouais. ça, tu fais plus trop de sport. Donc non, c'était, j'avais le look de quelqu'un qui faisait du sport, mais pas forcément, au fond, pas forcément ni le... Si, le corps, j'étais quand même athlétique, mais non, pas de sport à ce moment-là. Avant, oui, pas, après ça s'est vite arrêté.
Et donc, tu étais en alternance et tu faisais quoi ton temps libre ?
Mon temps libre...
Parce que tu restes un bébé quand même.
Ouais, j'étais un bébé. Et j'étais un bébé qui avait plus vraiment les mêmes amis, parce que, enfin, si et non, mais que tous les autres sont partis au lycée. Mmh. Et moi, je me retrouvais à rentrer le soir et on ne pouvait pas forcément se voir parce qu'on n'avait pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes horaires. Donc, le décalage s'est fait hyper vite et je me suis sentie un peu seule. Et puis après, tu rencontres d'autres gens, des gens que tu rencontres, bah moi j'en ai rencontré d'autres à l'école de graphisme, et puis c'est une nouvelle vie avec des nouveaux gens, t'as l'impression d'avoir changé, d'avoir bouleversé toute ta vie, donc je sortais mais pas beaucoup, parce que j'étais encore hyper jeune, et je m'intéressais à d'autres trucs, je commençais à avoir internet, donc je fouillais plein de trucs sur internet, je faisais un petit peu d'illustration aussi, et beaucoup de temps sur internet. C'est important.
Tu faisais quoi sur internet?
Quelle
année là?
On est... Attends. Alors, je suis très nulle. Je redoutais que tu me poses ces questions.
Ah merde,
je
écoute, sors le calendrier.
Je sais
alors,
pas
je
du tout.
Suis née en...
Je suis née en 87.
T'es née en 87, donc t'es...
Je devais
on
avoir...
Dans les 2010?
Ouais.
Oh putain, 2010.
Ah ouais. Ouais, bah ouais, j'avais... Je devais avoir 17 ans,
un peu
tu vois.
Avant quand même, en 2006.
En fait, ce qu'il faut 2005. Savoir, c'est que... 2010 peut-être, ouais, bien avant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le collège, je faisais des vidéos. En fait, j'ai très vite eu une caméra et une webcam et je faisais des vidéos avec mes copines. Et je pense que c'est ça qui m'avait aussi un peu rendu cool, c'est que j'étais un peu la seule à faire des montages vidéo avec Movie Maker. Et que...
tu faisais quoi? C'était genre la récré enfin...
On faisait des chorégraphies, on faisait pour les anniversaires, on faisait des vidéos où chacun disait bon anniversaire, tu sais, le truc un peu avec des transitions un peu folles, avec des chœurs. Et tout était bon pour faire des vidéos, mais vraiment tout. Je sais que quand il y avait la Star Academy, avec mes copines, on faisait des parodies de la Star Academy. Donc c'était vraiment pour moi, ça commençait à... Internet a démarré dans ma vie parce que je pouvais commencer à télécharger aussi des logiciels pour pouvoir monter mes vidéos.
Ouais.
Mais à l'époque, on les uploadait pas. Ça restait pour nous. On se mettait ça sur des CD-ROM. Donc après, mon temps libre, quand je suis devenue un peu plus grande, ça a continué quand même à être la vidéo. Parce que j'avais peut-être une autre forme de temps libre et j'ai commencé à participer à des concours de court-métrages.
Ah ouais ?
Ouais. Donc je faisais ça avec mes frères. J'avais une caméra mini DV, pour ceux qui connaissent le problème que c'est. Et du coup, j'écrivais des scénarios et je les tournais avec mes frères. Et puis, des fois, je participais à des concours de court-métrage. Et fun fact, je n'en ai gagné aucun. Voilà. Mais c'était trop cool parce que ça concrétisait un peu une idée que j'avais en tête. Puis de bosser avec mes frères, c'était trop cool. Et puis de voir le produit fini, c'était incroyable. Donc voilà, j'étais déjà quand même bien dans la vidéo. Mais avec du recul, c'était vraiment très très nul ce que je faisais. Mais ma famille était tellement à fond derrière nous qu'on s'en rendait pas compte.
Il y avait le clan, quoi. Le
ouais
clan.
Et on faisait des projections privées et tout. Mais je me dis, oh là là, ça devait être dur pour ceux qui regardaient la vidéo, quoi. Mais bon, c'est des bons moments quand même.
Et donc, t'es à l'école en alternance de graphisme. Ouais. Jusqu'à quand t'as fait ça?
Donc, le diplôme, le BEP de communication visuelle, il était en 2 ans. Je l'ai eu haut la main. J'avais même des cours d'imprimerie pendant ce... Parce que ça va ensemble, en fait, l'imprimerie puis de la communication. Ça... Voilà, moi, je voulais me spécialiser dans la presse papier, donc ça avait du sens. Et même imprimerie avec des vieilles machines et tout, j'ai eu 16. Alors que j'y pipais rien, mais je me suis dit c'est trop fou. Mais c'était fascinant parce que le métier de l'imprimerie, c'est fascinant.
Tu ressens bien les dates et les chiffres pour quelqu'un qui n'a pas les chiffres.
Hein. Ouais, mais les dates, je suis très nulle. Par contre, mes notes au
BEP. Ta première paye, tout ça.
Ouais. Que les prix, moi, pas les dates.
Ah, c'est la thune.
Ça
ne
m'intéresse. Je retiens que la thune.
Les dollars, ok.
mais non, et après ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aurais pu faire un bac pro. Et je n'ai pas souhaité le faire. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je voulais que bosser.
Bah donc, tu sais pourquoi ?
Oui, mais je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas ne pas l'avoir, mais parce que l'alternance me permettait quand même de bosser.
Est-ce que ça avait un sens, un bac pour toi ? Puisque tu étais déjà dans le monde du travail, tu avais tes 153 euros par mois.
Et ben ma mère, elle me disait, il faut avoir le bac.
Oui, ta mère, mais toi, est-ce que ça avait un sens ?
Moi, il n'y avait pas, ça ne résonnait pas en moi, ouais, le mot bac. Mais on était encore dans une société, et ça va mieux en ce moment, parce qu'on dédramatise un peu, mais tout le monde te dit que sans le bac, tu ne fais rien. Et je sais pas, j'avais une voix intérieure qui me disait, mais fuck le bac. Mais tout le monde voulait m'en empêcher, tout le monde voulait que j'aille faire ce bac. Donc j'ai quand même décidé de faire une première année, en alternance toujours. Et j'ai arrêté au bout de la première année, parce que j'étais en alternance dans une autre agence, une maison d'édition, et c'est ça que je voulais faire. J'étais exactement là où je devais être. J'étais graphiste, j'étais sous un directeur artistique et je bossais pour un magazine. Et c'est exactement ça que je voulais faire. Donc, j'avais commencé à arrêter d'aller à l'école.
Ah oui, mais en le disant ou sans le dire ?
Ben, c'était un peu d'un commun accord avec l'entreprise aussi. Et puis, voilà, le problème, c'est que je restais de plus en plus à l'entreprise. Puis ça, voilà, donc, au bout d'un moment, l'école a dit, bon... Là, clairement, ça ne suit plus les règles de ce que le contrat que doit remplir Léa. Donc, soit vous l'embauchez, soit elle retourne à l'école. Et voilà. Donc, je ne voulais pas. Donc,
Et ils t'ont embauchée ?
Donc, j'ai été embauchée.
Et tes parents ?
Mes parents. Ma mère a un peu sauté au plafond. Ce n'est pas ce qu'elle voulait pour moi. Et mon père est plus cool. Mon père a dit, si c'est ce que tu veux faire, voilà. Donc, j'étais dans une agence de folie. Toujours à Toulouse, j'avais mon bureau, mes collègues, c'était un autre monde, ça m'a ouvert tellement de...
Mais ils avaient quel âge tes collègues ?
Ils étaient plus grands que moi, ouais. C'était une équipe jeune, mais là le temps a un peu passé, mais j'avais 20, peut-être 20 ans, tu vois, et je les trouvais tous super, ils étaient libres, ils étaient drôles, ils étaient bien occupés, il fallait que tout avance, et ça m'a tellement appris d'être dans cette boîte. Donc j'étais là, j'avais l'impression d'être dans un film, tu sais, ton bureau
encore
avec mais ouais vraiment, il y a plein de moments dans ma vie où je me suis dit on dirait un film,
ouais.
J'avais un bureau avec plein de gadgets et de conneries, j'avais l'impression d'être le graphiste dans toute sa splendeur,
ouais.
Qui fait des horaires de fou et qui fait des trucs marrants.
Oui, alors du coup, tu disais que tu avais de l'humour et que c'était un peu ton arme au collège.
Ouais.
T'as la question chelou, t'as gardé ton humour ? T'es resté drôle ou...
T'es resté drôle ou pas ? J'ai l'impression que j'ai toujours essayé d'être la plus sympa possible. Parce que j'ai toujours peur qu'on me trouve parfois triste ou j'en sais rien. Je veux que la première impression, ça va mieux maintenant, mais que la première impression soit bonne. Et même là-bas, je pense que l'humour a primé aussi sur ma personnalité. Puis après, bah, quand tu côtoies les gens, ils voient autre chose de toi, parce que parfois tu peux être un peu sensible ou tu peux... Voilà, mais ouais, j'ai gardé ça en me disant que c'était marrant d'avoir pu transposer cet état d'esprit dans le monde du travail et qu'il y avait des gens réceptifs pour ça. Mais non, franchement, j'étais dans un bon environnement et ça m'a épanouie complètement. Vraiment.
Ouais, donc tu étais graphiste, c'était ça
ouais.
Terme dans cette boîte ?
Ouais, je bossais pour un magazine masculin, mais rien à voir avec...
Masculin, c'était
ouais,
quoi ?
Ouais, c'était un peu l'équivalent d'un GQ.
D'accord.
C'était un trimestriel, et ça s'appelait Fuel Paper. Et c'était... Ouais, j'étais exactement là où je... Bah, il y en a un là, tu vois, c'est marrant. Il y en a ici.
Ah oui.
Et
Léa vient de me montrer un magazine sous sa table basse.
Caché sous un livre de packaging.
Qui est pas très loin, donc qui est encore présent dans
ben,
ta vie.
Ben ouais, des fois j'aime bien l'avoir pas loin, parce que je me dis que c'était des moments qui étaient très chouettes.
Ouais,
et
ça t'évoque ces moments-là de regarder le magazine
Ben ouais, t'as l'impression que c'est concret, j'ai participé à ça. Genre il y a mon nom dans l'ours du magazine, donc c'est une vraie petite victoire. Et puis j'étais fière de ce qu'on faisait. C'était pas facile tout le temps. C'était même compliqué et on me demandait beaucoup de choses qui n'étaient pas toujours dans mon domaine de prédilection, mais il fallait filer un coup de main pour plein d'autres niveaux. Donc voilà, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort et puis ça m'a permis de voir autre chose. Ça n'a pas dû être facile pour eux parce que bah, j'étais jeune, quoi. Mais mes meilleures décisions de ma vie.
Et t'es restée combien de temps dans cette boîte ?
Je suis restée 2 ans. Et ensuite, j'ai été débauchée pour vivre, enfin pour travailler dans une boîte en Espagne.
Ah ouais?
Pour être directrice artistique dans, dans une entreprise.
Mais qui est venue à toi comme ça?
Eh bien, il se trouve dans ma famille, j'ai la cousine de mon père, mais qui est comme ma tante puisqu'ils ont le même âge, en fait, travaille depuis très longtemps en Espagne. Et s'était marié à quelqu'un qui avait une entreprise et plusieurs entreprises. Et il se trouve qu'elle, elle s'occupait de celle-là. Et elle m'a demandé... Enfin, ils cherchaient quelqu'un. Ils avaient fait des rendez-vous. Et elle m'a demandé si moi, je voulais passer l'entretien. Sauf que je ne parle pas un mot d'espagnol. J'ai fait espagnol à l'école, mais comme j'étais très moyenne... Et ben, je parlais pas espagnol, quoi. Donc, je me suis dit...
C'était vraiment en Espagne pour un truc espagnol.
C'était à Madrid, ouais. Et je me suis dit, tant pis, j'y vais. J'y vais. Et j'ai été prise. Et donc, j'ai débarqué à Madrid. J'ai débarqué à Madrid et je parlais pas un mot d'espagnol. Mais c'était fou. Je regretterai jamais. Je suis restée 2 ans. Je regretterai jamais tellement c'était incroyable.
Et t'as appris du coup l'espagnol sur le tas
Alors j'ai eu la chance d'être tombée dans une coloc de filles, de 2 filles espagnoles. Et du coup quand tu vis au quotidien avec 2 filles qui parlent espagnol, même si elles parlent un tout petit peu français des fois pour m'aider, ça parlait espagnol quoi. Donc ça m'a bien aidée, elles étaient trop trop gentilles. Et au boulot par contre ça parlait exclusivement espagnol. Sauf ma tante. Qui du coup, quand on se croisait dans les couloirs, me parlait en français, mais elle essayait au minimum de le faire parce que sinon c'est excluant pour tout le monde de switcher. Bref, donc voilà, je me retrouve à Madrid avec mon petit poste de directrice artistique. T'imagines, genre, 24 ans, un peu bizarre. Mais j'étais trop fière. Voilà, et j'étais trop fière de voir tous mes amis du collège sur Facebook. Tu sais, à l'époque, on était grave sur Facebook. De dire, voilà.
Ça voilà, moi je suis en Espagne,
alors qu'il y en a qui n'étaient pas encore partis de ma ville, quoi. Donc j'étais super fière et j'étais fière autant que parfois j'étais triste parce que j'étais loin de ma famille,
ouais.
Et parce que c'est dur parfois de se faire des nouveaux amis et tout, mais je m'accrochais en me disant c'est ça que tu veux.
Et tu faisais des vidéos en espagnol pour faire rire le week-end ou...
Trop marrant, mais oui, il se trouve que... Il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu une de mes meilleures amies aujourd'hui, qui s'appelle Martha. Et on nous a présenté lors d'une soirée, je crois. Et on s'est vus et on est un peu tombées amoureuses en se disant, mais on parlait, puis je barbouillais 2-3 mots, mais elle était trop gentille. Elle avait fait un Erasmus à Montpellier, donc elle arrivait à me barbouiller 2-3 mots aussi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait des vidéos toutes les deux quand on était ados. Et on se les a montrées mutuellement, du coup, après. Et on s'est dit, mais c'est fou, on a été élevés pareil, nos parents, on se ressemble un peu dans la façon d'être, etc. Elle a un frère, moi aussi j'avais un frère. Enfin bref, on s'est dit, mais c'est trop marrant, nos doubles en fait. On s'est dit, on n'a qu'à faire des vidéos ensemble, et on faisait des vidéos, des conneries, des karaokés, plein de trucs en fait. Et c'était trop bien d'avoir trouvé quelqu'un que j'aurais dû rencontrer quand j'étais à Toulouse. Enfin c'est trop marrant, mais... C'est trop marrant d'avoir pu faire des vidéos, même encore à Madrid. J'ai rien lâché jusqu'au bout. Mais je me rendais pas compte que c'était fou. Je pensais que moi, tout le monde faisait des vidéos, mais non.
Ouais.
Pas tout le monde, apparemment.
Et c'est quand que tu les as publiées, tes vidéos, du coup ?
En fait, je me suis rendu compte à Madrid que je connaissais déjà YouTube et tout, mais je regardais de temps en temps des vidéos.
Ça arrive en quelle année, YouTube ?
Je pense que... C'est arrivé assez tôt parce que quand je bossais en tant que graphiste à Toulouse, on se servait souvent de YouTube, mais j'allais souvent, plus souvent sur Vimeo,
ouais.
Parce que je trouvais que le player était plus qualitatif et tout, et que dans mon boulot, c'est plus ce qu'on recherchait. Donc c'est arrivé quand même il y a un moment, je saurais pas dire, mais le moment où moi j'ai compris que je pourrais potentiellement poster du contenu, c'est arrivé super tard. J'ai toujours consommé du contenu de temps en temps, mais jamais en me disant « toi, tu pourrais mettre le tien ». C'est étrange parce que je ne l'avais jamais fait, donc voilà. Et un jour, elle et moi, on a commencé à poster des vidéos de nous sur Internet, mais ça restait vraiment dans une sphère privée. Et je me suis dit « ah, c'est marrant ». Avant, nous, on les mettait sur des CD-ROM, quoi. On les mettait sur des CD-ROM pour faire rire nos copains. Sauf que là, ils peuvent les voir sans qu'on leur donne ce fameux CD-ROM. Donc c'était cool, mais à aucun moment j'ai pensé que ça pouvait être un métier, quoi. Je me disais, c'est juste marrant.
Ça n'existait pas de toute façon comme métier encore?
Non, pas vraiment. Je pense que quand j'étais en Espagne, c'était les débuts des podcasts, ce qu'appelaient les youtubeurs des podcasts, des facecam en fait, dans leur chambre. C'était le tout début.
D'accord.
Et donc, au bout de ces 2 ans, bah, j'avais un peu fait le tour. J'avais presque pris du cholestérol parce que je buvais trop et que je mangeais trop de charcuterie. Et donc, je suis rentrée parce que j'avais l'impression que voilà, j'avais fait ce qu'il fallait. Et voilà, je réfléchissais à des nouvelles aventures. Donc, je suis rentrée un petit peu à Toulouse et j'ai essayé de me mettre en freelance, du coup, pour avoir un petit peu d'argent quand même et d'offrir mes services de graphiste à qui le voudrait bien. Et en fait, je me suis remis à faire des vidéos. On dirait une camé qui a replongé.
C'est ça.
Et sauf que là, je l'ai posté. Je l'ai posté, ouais, en créant une chaîne.
Et ta première vidéo que tu as mis en ligne, c'était dans quel but, en fait? Tu te rappelles ce que c'était?
Ouais, la première vidéo, ça s'appelle Les jeux de société.
Ouais.
Et c'est une vidéo qui explique combien je suis mauvaise joueuse aux jeux de société. Et les trucs un peu absurdes du jeu et tout. Donc c'est vraiment c'est un sketch en fait.
T'étais toute seule ou il y avait d'autres gens?
J'étais toute seule dessus, mais j'avais demandé l'aide autour de moi parce que j'avais pas de caméra à l'époque. J'avais revendu mon appareil photo parce que j'avais besoin d'argent, etc. Donc j'avais pas un copec et j'avais la chance d'être autour de gens qui eux avaient du matos et qui pouvaient m'aider. Voilà. Et c'était trop bien cette vidéo. J'avais trop kiffé l'affaire et je l'ai posté en me disant bon bah maintenant que j'ai créé une chaîne et que apparemment ça se fait, allez quoi.
Et ce que j'ai pas très bien compris, c'est au départ quand tu racontes ta passion pour les vidéos, j'ai l'impression que tu étais derrière la caméra.
Ouais.
Et j'ai pas compris à quel moment t'es passée devant en fait.
Ah oui, c'est vrai, j'étais beaucoup derrière la caméra. Et la première fois où je me suis mis devant, ça a plutôt été quand je faisais 2-3 vidéos avec ma copine en Espagne, parce qu'on n'avait personne pour nous filmer.
Ouais.
Mais c'est vrai que la toute première vidéo où j'étais dessus, c'est celle qui est postée sur YouTube. C'est celle qui est la première de ma chaîne, qui est encore visible.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses te dire à un moment donné, allez, je suis devant?
Peut-être que j'ai grandi. Peut-être que aussi, il n'y avait que moi pour raconter ce que j'avais envie de dire.
D'accord.
Je ne sais plus exactement le cheminement dans ma tête, mais c'est allé assez simplement.
Naturel, ouais, quoi, t'es passée devant.
Et puis aussi, j'ai vu que les gens le faisaient assez facilement et que pourquoi pas moi au final, parce que bah, y avait pas de raison. Donc c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi, mais je me suis juste dit allez, ça peut être cool.
Il y avait des trucs à dire quoi.
Ouais, puis je me rendais pas compte qu'il y avait des gens qui allaient pouvoir regarder ça. Tu sais pas quand tu postes, tu sais pas qui va voir ça, donc tu te poses plus trop la question. Et après c'est quand ça marche que tu fais encore plus attention, du coup c'est dommage, mais la naïveté des premières vidéos elle est incroyable.
Et comment ça a été reçu, comment alors, cette vidéo sur les jeux de société?
La vidéo sur les jeux de société, c'est marrant parce qu'à l'époque, dans le paysage de YouTube, le paysage français, on n'était pas beaucoup. Et surtout, on n'était pas beaucoup de filles. Donc du coup, je pense que j'ai bénéficié d'arriver...
Je te demande pas quelle année on est. Hein.
On est en 2012,
ah,
je pense.
Ah ça, tu sais. Okay.
2012. Et d'accord. À l'époque, voilà, on est beaucoup moins nombreux. On a tous à peu près le même âge, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tous trentenaires, quasiment. Et je pense que j'ai bénéficié d'arriver au moment où il y avait très peu de filles. Et c'était dommage, parce que je trouvais ça bizarre qu'il y ait aussi peu de filles et autant de garçons.
Tu t'étais fait cette réflexion?
Je m'étais déjà fait la réflexion,
okay.
Parce que en consommant un petit peu de contenu sur YouTube à cette époque-là, je me rendais compte que... ouais, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. Donc je trouvais tout marrant, tout me parlait, garçon ou fille, c'était pas le problème. Mais est-ce que toi, quand tu fais du contenu fait par une fille, est-ce que ça plaît aux garçons? C'était ça, à l'époque, le vrai challenge. Et du coup, j'ai continué à poster. Et j'ai senti qu'au fur et à mesure, ça prenait. Après, j'ai vite aussi senti qu'il y avait des remarques sur « les filles, c'est pas drôle ». Ou des remarques.
C'était quoi? C'était dans les commentaires?
Ouais, c'était dans les commentaires, mais c'est marrant parce que ça arrive plus trop aujourd'hui. Mais à l'époque, vraiment, quand t'étais une fille et que tu voulais te lancer dans l'humour, il y avait un vrai truc de les filles, c'est pas drôle.
Oh ouais.
Les mecs disaient non, mais j'ai beau tout essayer, les filles, c'est pas drôle. Et j'étais là, waouh! Et ben dis donc. Mais vite, je me suis détachée de ça en me disant que on s'en foutait en fait.
Moi, c'était ton arme, toi. T'en avais connu des expériences avec ton humour.
Ouais, et puis si c'est que l'humour, bah ça va. Après, quand ça touchait au physique, c'était un peu plus dérangeant. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça a changé et que YouTube, il était autre à cette époque-là. Les commentaires n'étaient pas tout à fait les mêmes. C'était étrange. Et puis comme on était moins, peut-être les gens se lâchaient un peu plus. Individuellement, je ne sais pas. Et puis voilà, donc j'ai continué à faire ce qu'on appelle de l'humour et du divertissement.
J'ai continué à être drôle.
C'était sympa. En pleurant. Non, mais c'était dur. C'est dur de vouloir être drôle. C'est dur de vouloir être drôle si tu penses.
C'était un peu l'escalade, non ? C'était il faut que je continue.
Ouais, du coup, après, tu rentres un peu dans un engrenage où il faut être drôle. Ouais. Et ça, je ne sais pas si personnellement j'étais capable de le gérer. Parce que c'est vachement de pression quand même de se dire que tu dois être drôle.
T'avais quoi comme retour pour savoir si t'étais drôle justement ? C'était des commentaires, ton entourage ? C'était...
Oui, après tu mises tout un peu sur les commentaires parce que c'est le seul lien que t'as pour ouais. le moment avec les gens qui regardent tes vidéos. Donc il y avait des très très bons et puis des moins bons, mais j'ai jamais eu trop de vagues de haters, ça c'est vraiment une chance. Une chance, je sais pas, parce qu'au final... C'est ça aussi.
Parce que tu renvoies sans doute, on a déjà parlé.
Oui, peut-être, mais j'ai jamais eu ça à gérer, mais peut-être que j'aurais pas su le gérer. Donc je suis contente de pas l'avoir vécu parce que j'ai pu faire mon petit bonhomme de chemin aussi sans trop me soucier de ce qu'on me disait. Mais les mauvaises critiques résonnent forcément en toi quand tu vas faire ton prochain contenu. C'est terrible.
Et tu gagnais de l'argent avec les vidéos ou tu étais toujours graphiste ailleurs
hein? Eh ben j'étais toujours en freelance, donc je gagnais pas d'argent. Et à l'époque, on ne savait pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec
ça YouTube. Ça n'existait pas encore, les marques n'étaient pas encore complètement là, ouais.
Non, ça n'existait pas. Et je suis fière de le dire parce que... Enfin, je suis fière et pas fière, mais je suis fière de me dire que j'ai appartenu à ça au moment où on l'a fait avec les tripes, en se disant que c'était pas une question d'argent. C'était une question de créer du contenu, de créer quelque chose, de délivrer un message, de faire quelque chose. On avait envie de partager quelque chose.
Pourquoi t'es fière de ça ?
Je suis fière parce que peut-être que si j'avais commencé maintenant, il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte, comme si tu fais ça, tu pourrais être sponsorisé par telle marque, ou alors si tu fais tant de vues, tu pourrais avoir tant. Mais moi, au début de ma chaîne, j'étais même pas partenaire YouTube, ce qu'on appelle partenaire YouTube, ce qui permet de toucher un pourcentage sur les publicités qui sont sur tes vidéos. Bah moi, à l'époque, j'étais même pas partenaire YouTube, donc je touchais walou. donc je suis contente d'être arrivée à ce moment-là parce que t'es totalement libre. T'es libre de faire le contenu que tu veux. Je dis pas que c'est pas le cas maintenant, mais il y a des paramètres que certains qui veulent se lancer ont que moi j'avais pas. C'était la liberté totale. Il restait tout à faire et c'était incroyable. Donc je dis pas que c'est pas incroyable maintenant, mais maintenant on sait qu'on peut en vivre et qu'on peut en vivre bien. Donc peut-être que les motivations sont autres, pas toutes, mais c'est un vrai paramètre à prendre en compte. Et je sais même pas si c'est aujourd'hui j'arriverai à me lancer.
C'est quand que tu as reçu ta première paye en lien avec tes vidéos ?
En fait, assez rapidement, quand tu commences à faire des vidéos et quelques vues, YouTube t'envoie un mail pour te demander si tu veux bien être partenaire YouTube, donc ce qui permet de partager les recettes entre tes publicités sur tes vidéos.
Et tu te rappelles ce que tu as ressenti quand tu as reçu ce mail ?
C'est ce que je voulais. J'attendais ça avec impatience parce que je savais comment ça fonctionnait.
Tu savais que ça pouvait arriver, d'accord.
Ouais.
Parce que tu avais une bande de potes, du coup, des YouTubeurs ou... T'avais des endroits où tu les voyais fin...
Bah alors j'avais pas vraiment de bande de potes parce que moi j'étais à Toulouse et eux ils étaient à Paris la plupart.
Ouais.
Et je savais juste comment ça se passait parce que je regardais pas mal passer de discussions sur des forums ou sur Twitter. En fait je connaissais le fonctionnement et c'est vrai que quand YouTube te demande d'être partenaire YouTube, c'est vachement chouette parce que ça veut dire que tu vas pouvoir gagner un petit peu d'argent avec ton contenu. C'est incroyable.
T'es reconnu quoi. Enfin,
Et ça veut dire que potentiellement tu peux en vivre. Moi je faisais pas assez de vues pour en vivre à l'époque, clairement pas, mais j'étais contente de me dire que même si c'était 3,50€, et ben 3,50€ mieux dans ma poche que dans celle d'un autre, donc j'étais contente. Mais il y avait pas cette notion du tout de sponsoring, etc. C'était trop tôt, beaucoup trop tôt.
Mais ça a pris de l'ampleur comment alors?
Alors, il faut savoir que j'ai moi, un parcours un peu atypique parce que.
Ah, on n'avait pas compris là. Merci de préciser au bout de 20 minutes d'entretien. Non, la mais. La meuf, pas... elle a arrêté l'école à 3e, elle s'est fait recruter.
Non, mais.
Elle va en Espagne, elle parle pas espagnol. Ah ouais, t'es atypique. Ah d'accord.
Non, mais atypique.
Non, mais merci de le préciser.
Sur YouTube parce
ah,
que.
Ah oui, bah oui.
Atypique sur YouTube parce que j'ai lancé ma chaîne, j'ai fait du contenu et j'ai arrêté pendant 2 ans.
Pourquoi?
Alors.
Toi, t'as des cycles de 2 ans en plus, j'ai l'impression.
C'est n'importe quoi. Ouais, fais gaffe, ce podcast peut durer 2 ans.
Adieu, nous sommes octobre 2021, c'est la fin.
En fait, j'ai fait plein de trucs, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de commencer mes premières collaborations. Ma toute première collaboration, ça a été d'être égérie pour Eau Précieuse. Ça, je sais pas s'il y a des gens qui le savent.
Ça, c'est la classe. Il y avait Biactol et il y avait Eau Précieuse.
Et pas...
C'est plus joli, ceci dit, Eau Précieuse.
Bah, Eau Précieuse, je me disais, c'est fou, quoi. C'est la première marque qui a voulu travailler avec moi et c'était pas juste un placement de produit, gna gna gna, sur mes vidéos. Non! Non, non, j'ai été jetée dans le grand bain très vite. J'habitais encore à Toulouse. Et on m'a signé pour faire une mini-série produite par une boîte de prod et produite par Eau Précieuse pour parler de la vie d'une jeune femme avec ses problèmes, hein, sous forme de sketch aussi, mais qui ne serait pas sur ma chaîne. Du coup, je me suis dit, bah, c'est trop bien, pour la première fois, j'aurais pas à gérer la technique et tout, mais je pourrais mettre ma patte quand même. Donc on a tourné ces 6 épisodes, c'était trop trop bien. Vraiment, bah pour moi, c'était faire un peu de comédie et puis avoir un petit peu plus de moyens pour faire du contenu, c'était fou. Et il se trouve que ça a bien marché. Je me suis retrouvée sur les PLV dans les pharmacies. Je me suis retrouvée à avoir un billboard. Alors un billboard, c'est ce qu'il y a avant des émissions, en fait, sur TF1 ou sur d'autres chaînes. J'avais le billboard d'Eau Précieuse avec ma tête avant Danse avec les Stars. Donc tout est allé trop vite, vraiment pour le
la
coup.
Gloire. La gloire d'Eau Précieuse.
La gloire. Et c'était génial qu'une marque comme ça et soit partie de ah on va juste faire quelques vidéos, ah on va mettre ta gueule sur les PLV.
Tu veux
c'était
dire que
incroyable.
Quelque part, t'as permis à faire décoller cette.
Et
promo-là,
ben
en fait,
moi ça a été mes premiers cachets, mes premiers vrais cachets pour vivre. C'est la première fois que je gagnais vraiment de l'argent. Bah pour créer pour jouer dans les contenus qu'on avait créés avec la marque et la boîte de prod. Et puis aussi pour représenter une marque, c'était la première fois de ma vie. Et ça m'a permis de venir vivre à Paris. C'est ces cachets-là, je suis complètement montée. Et c'était pas mon rêve de monter à Paris, du tout. Mais je me suis dit, tout le monde est là-bas. Tous les gens que je regarde sur Internet, ils sont là-bas. Et pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi je commençais à avoir des rendez-vous et le train, à l'époque, on n'avait pas le TGV Toulouse-Paris, ça mettait 5h30 ou plus même. Donc des fois, je prenais le train de nuit qui mettait plus 7 heures pour y aller parce que c'était pas cher. Donc j'essayais d'honorer des rendez-vous et au final, j'y arrivais plus. Au bout d'un moment, ça me coûtait beaucoup trop d'argent. Donc j'ai décidé de partir et j'ai pris un petit appart dans le 9-3. Un petit 35 mètres carrés dans le 9-3. Et c'était la folie pour moi. Je me dis, c'est incroyable. Genre, j'ai mon chez-moi, même si j'avais déjà eu mon chez-moi à Madrid, avoir son chez-toi d'adulte à Paris, même si c'est dans le 9-3, j'étais trop contente. Et puis, bon, c'est avéré que suite à ça, j'ai pas nécessairement eu envie de reprendre ma chaîne.
Ouais.
Parce qu'on me proposait du travail. On me proposait du travail partout.
En sachant que ta chaîne... Depuis que tu étais jeune, tu faisais des vidéos, donc c'était plus un loisir que.
Ouais, et
qu'autre
puis
chose.
J'ai l'impression que je me suis laissée happer par. T'es pas obligée de faire du contenu sur ta chaîne, tu peux aussi faire du contenu pour d'autres gens.
Ouais.
Et j'ai perdu complètement ce plaisir de faire du contenu sur ma chaîne. Ouais. Je me suis dit, c'est plus facile et c'est moins engageant pour moi de le faire chez d'autres ou de participer à des vidéos d'autres youtubeurs ou d'aider des marques à écrire du contenu, etc. Donc j'en étais venue à me dire que j'étais peut-être auteur.
Ouais.
Et je me suis dit, mais c'est ça en fait que tu voulais faire dans la vie, c'est être auteur. Donc j'ai été embauchée chez Cabot, qui est une boîte de production à Paris, qui fait notamment scènes de ménage. Et je me suis lancée en tant qu'auteur.
D'accord.
Donc je me suis dit, c'est là, c'est exactement là où tu veux être. Tu y es. Voilà.
Et t'écrivais quoi alors ?
Donc on proposait des textes, c'était pour un programme qui n'a jamais vu le jour d'ailleurs, et j'espère que c'est pas à cause de moi. mais voilà, on était toute une équipe d'auteurs pour créer un nouveau programme. Voilà, une sorte un peu comme un scène de ménage, mais plus à destination des jeunes et plus autour d'une bande d'amis, etc. Donc c'était passionnant de bosser là-dessus. Et je me disais, mais c'est ça, voilà, c'est ça que je veux faire.
Tu te cherchais encore ? Parce qu'à force de dire, c'est là que mais je dois être, je suis exactement à ma place.
C'est trop bizarre.
J'entends derrière ouais. Peut-être pas en fait.
Bah, c'est trop bizarre parce que j'avais pas l'impression de me chercher, j'avais l'impression de trouver un truc et de me dire, ah, c'est ça.
D'accord.
Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai écrit pour les autres, pour de la pub, pour de la fiction. Ouais, okay,
d'accord.
Pour de la fiction.
Coup, c'est 2 ans.
2 ans, tu vois, c'est une petite phase de 2 ans.
C'était phase, hein. C'était cycle. Après, tu t'emmerdes.
Et puis, j'ai plus jamais alimenté ma chaîne. Et ça me manquait autant que je me disais, mais oui, mais ma vie, elle est bien remplie, en fait. Et elle est bien remplie, et peut-être que je suis pas faite, moi, pour être youtubeuse. Donc, j'étais contente de travailler pour les autres. Et un jour, j'ai décidé de la réouvrir parce que je comprenais que d'écrire pour les autres, c'était génial, mais que j'avais perdu toute l'essence même de ce que je faisais quand j'étais ado. Écrire,
comment
jouer...
Comment t'as compris ça ?
Bah, quand tu te lèves le matin et que t'as l'impression que t'es pas vraiment à ta place. Et encore une fois, je ressentais les mêmes choses que je ressentais quand j'étais ado. Quand j'étais au collège, où je fitais dans ce monde-là, pas tellement comme j'aurais voulu fitter. J'étais là, ça se passait bien, mais j'avais l'impression d'être là sans être là. J'avais pas l'impression d'appartenir à un groupe précis. J'avais pas l'impression d'être vraiment incluse dans les projets des autres. Je me sentais un petit peu en décalage et ça me faisait vachement souffrir. Sauf
moi, c'est peut-être ça que j'entends quand tu dis j'étais à ma place. C'est comme si tu cherches ta place.
En je fait. L'ai cherché, je l'ai
et,
cherché
et
beaucoup.
Régulièrement, tu
et
sais
encore
que t'es
maintenant.
Là où il faut, et puis en même temps, ouais. Tu sais que ça va revenir et que ça sera peut-être pas là.
Ouais.
Une espèce de cycle, justement, comme ça.
Ouais, depuis le collège. J'ai l'impression que je cherche cet endroit où je pourrais être le mieux, le plus à l'aise, d'être moi avec le moment de joie, de peine et tout. C'est hyper compliqué. Et à Paris, j'ai pas tout de suite réussi à trouver ça. Ni même en amitié, c'était compliqué, j'étais bien entourée, il y avait des gens super, mais encore une fois, j'avais pas l'impression d'avoir trouvé l'endroit où j'étais en sécurité, quoi. Et du coup, j'ai décidé, mais ça c'est grâce à mon entourage aussi, de reprendre les vidéos. Ça n'avait pas de sens de tout arrêter, d'être montée sur Paris pour ne pas faire du contenu pour soi-même. C'est se perdre aussi, si ton contenu il est plus du tout à toi, c'est autre chose. Donc, j'ai créé une vidéo qui s'appelle la vidéo des 2 ans sans vidéo et qui a trop bien marché. Je suis contente de dire qu'elle a marché parce que j'avais tellement peur en la sortant. J'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Je me disais, mais qui fait ça ? Qui part pendant 2 ans pour faire une vidéo et dire
dans sa grande carrière de...
De grande carrière, ouais, de n'importe quoi. Je me disais, mais qui a envie de voir ça ? Et puis finalement, il y a eu un accueil qui était très chouette, qui m'a fait vraiment chaud au cœur, qui m'a donné envie de continuer à partager un contenu qui est toujours propre à chacun. Et c'est ça, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde sur YouTube et que c'est tellement dommage de ne pas s'en servir. Mais moi, j'avais perdu ça. J'avais perdu ça pendant 2 ans parce que j'étais persuadée que je pouvais mettre mon talent au service des autres. Sauf que,
Est-ce que tu t'es pas fait happer, entre guillemets, par une bande aussi ?
Moi, la bande avec qui j'étais, ils étaient quand même tous très productifs, surtout sur leur chaîne. Hein. Donc, j'avais pas trop d'exemples de gens qui faisaient comme moi. Moi, j'avais juste l'impression que je pouvais me greffer pour les aider à ce que ce soit plus cool ou je faisais partie d'un collectif qui s'appelait Golden Moustache où on crée des fictions. Et du coup, ça me rassurait de ne créer des fictions pour une autre plateforme.
Ça me fait penser quand tu étais au collège où finalement tu faisais des vidéos pour être incluse dans la bande.
Ouais, mais tout complètement.
C'est peut-être un peu ça aussi.
Complètement. Je pense que c'est quelque chose qui peut te rapprocher. C'est hyper fédérateur de faire des vidéos ensemble. C'est déjà du temps, de la concentration, de l'énergie et de la rigolade. Donc quand tu fais ça en groupe, c'est génial. Enfin, vraiment. Ça m'a beaucoup appris d'être dans un collectif, mais ça m'a manqué quand même de pas être juste moi.
Ouais, parce que toi, c'est une nana qui aime faire ça devant, derrière.
Peu importe, ouais. Je voulais juste retrouver ce sentiment que j'avais quand j'étais ado.
Ouais.
Et je l'avais complètement perdu et je savais pas comment faire pour le récupérer. Du coup, j'ai décidé de refaire des vidéos, de le refaire en disant la vérité. J'ai pas fait de vidéo parce que, bah, parce que j'ai fait autre chose, et parce que... mais pas parce que j'en avais pas envie. Donc voilà, la vidéo a été plutôt bien accueillie, ça m'a fait beaucoup de bien, et j'ai pu continuer à en faire. Donc j'en faisais assez régulièrement, mais c'est pas non plus, j'en fais pas tous les mois, mais ça m'a redonné goût à le faire avec mes mots à moi, ma patte à moi, mon montage à moi surtout, et mon identité. Ça m'a permis de me resituer un petit peu sur ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, et depuis ce jour-là, je n'ai pas refermé ma chaîne, je n'ai pas arrêté de faire des vidéos pendant 2 ans, donc pour l'instant, c'était la bonne chose à faire.
Donc tu faisais des vidéos assez humoristiques, après t'as un petit virage aussi écologique, on
pas
peut dire
tout.
Ça comme ça
oui, oui.
Comment on dirait ça alors?
Et ben, il se trouve que, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais...
Oh là là là, que d'exclus, que d'exclus. J'ai 2 ans pour exploiter ça.
Après, c'est fini. Non, en fait, j'avais jamais vraiment voyagé de ma vie. Mon seul voyage, c'était d'être allée à Madrid. Donc après, j'ai voyagé avec mes parents en France.
En Ardèche, on a dit.
En Ardèche. Mais je crois que j'ai toujours été frustrée d'entendre des récits de voyages de mes amis ou de mes proches qui étaient partis super loin avec leurs parents ou non, peu importe. Donc j'avais jamais vraiment voyagé. Et ça restait quand même une vraie frustration pour moi. Parce que je viens d'une famille modeste et on n'avait pas forcément les moyens de partir, mais j'ai manqué de rien. Juste, j'avais l'impression qu'on n'avait pas forcément l'argent pour faire partir 5 personnes. Et du coup, je me suis dit, un jour, quand j'aurai un petit peu d'argent, ben, j'aimerais bien partir quelque part, quoi. Donc j'ai économisé mes premiers pécules de YouTube pour organiser un voyage au Mexique, puisque mon rêve, c'était de voir les temples mayas. Et
ouais. Non, ouais. Je pense que ça venait d'où, ça?
C'était, tu sais, quand t'as pas trop voyagé, tu regardes tout, tu regardes les trucs les plus mystiques, ouais. Qu'est-ce que t'as envie de voir et tout. Et moi, je m'étais vraiment arrêtée là-dessus. Et en plus, j'étais archi fan des tortues marines et j'en avais jamais vu de ma vie. Donc je me suis dit, c'est bien, ça combine un peu tout. On avait trouvé des vols pas chers à l'époque avec mon copain et on s'est dit, on y va. Voilà, on avait bien travaillé, lui, il bossait... dans les effets spéciaux, on s'est dit on a besoin de temps pour nous, on s'en va. Et c'était clairement le meilleur voyage. Meilleur voyage parce qu'il y avait tout. Il y avait les tortues, il y avait des réserves naturelles, des temples mayas. On était... Enfin, moi, ça a changé, ça m'a transcendée. Je me suis dit, c'est fou, quoi. Et aussi, une constatation que tu fais quand tu voyages, c'est que ton impact en tant que touriste, il est très fort. Je me suis retrouvée dans des marées humaines de gens, je me suis retrouvée à voir des monticules de déchets, à comprendre qu'on n'avait pas toujours l'impact positif qu'on pense avoir. C'est pas parce que t'es touriste que tu fais vivre tout un peu un écosystème local, mais j'étais pas très à l'aise parfois avec ce que je voyais ou ce que je faisais.
Dès ton premier voyage, t'as...
Assez vite, hein, franchement, ouais. C'est allé assez vite et je comprends pas comment c'est allé aussi vite, mais je me suis sentie un peu mal à l'aise parfois. Donc ça a été le Mexique. Et puis après, en faisant cette vidéo sur le Mexique, je me suis aperçue que c'est ça que je voulais faire.
C'était quoi, ça?
Je voulais continuer à faire des vidéos, peu importe le contenu que j'avais envie de faire, mais j'avais envie de voyager.
D'accord.
Parce que quand tu l'as vécu une fois, eh ben, t'as envie de voir autre chose. Et je suis devenue accro. Je suis devenue accro à essayer de comprendre certaines cultures, d'essayer de comprendre certains endroits. J'essayais à chaque fois d'étayer un petit peu ma curiosité et ma compréhension, parce que je suis toujours partie pour des raisons un peu autres que juste le tourisme. Donc c'est venu assez vite, mais quand on est parti en Afrique du Sud avec ma copine Morgane, c'était pour faire du volontariat, alors que j'étais jamais allée en Afrique du Sud. J'essayais juste de me dire qu'on peut peut-être découvrir un pays autrement, ou parce qu'il y a un truc spécial sur place autour de l'environnement, etc. Donc il y a toujours un peu une ligne directrice dans mes vidéos, Mais le Mexique, non. C'est la seule qui en a pas.
Mais comment c'est arrivé là? Donc tu pars en voyage, tu trouves ça cool, tu as envie de bosser là-dedans. Et comment ça s'est réalisé? Tu as repayé tes voyages d'après? Tu as proposé des contenus à des agences de voyage? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a des voyages que j'ai continué à payer de ma poche parce que ben j'avais pas la notoriété ni la communauté pour. Et puis je comprenais pas bien comment ça marchait. Est-ce qu'on pouvait être vraiment payé à voyager? C'était très flou dans ma tête. Ça me paraissait aberrant. Donc j'ai vite compris que peut-être si je voulais voyager et créer du contenu, il fallait que je me rapproche des agences qui s'occupaient des destinations.
Ouais.
Donc au début, je proposais aux agences de me faire partir, mais comme j'avais pas beaucoup de communauté, qu'en échange, je puisse créer du contenu vidéo et que moi, en échange, je puisse juste partir. Il n'y avait pas de notion d'argent. Sauf que ça, je savais très vite que ce ne serait pas viable. Parce que moi, j'étais tellement heureuse de voyager et de créer du contenu autour de ce voyage-là, de le partager. Mais du coup, c'était beaucoup de temps et de... C'était beaucoup de temps passé à créer du contenu sur quelque chose qui ne me rapporterait rien, si ce n'est le bonheur de le partager avec ma communauté. Et ça, pour moi, ça prenait le pas sur tout, en fait. Je m'en foutais du coup de l'argent. Sauf qu'à terme, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas manger. Donc voyager, bah oui, c'est con en fait, mais j'avais l'impression de vivre mon rêve, je me disais
sauf comme que... tu dis, t'es aussi très précurseur de ce métier qui n'existait pas. YouTube, on savait pas qu'on pouvait vivre en faisant du contenu vidéo, tu savais pas que tu pouvais gagner de l'argent en voyageant, c'est nouveau en fait.
C'est nouveau, après j'ai peut-être été un peu naïve aussi, c'est que bien sûr que tu peux gagner de l'argent en voyageant si tu proposes de créer quelque chose autour de ce voyage. Le but c'est pas d'être payé pour faire Ekiku, je suis en calbute devant une cascade, c'est tellement... Enfin, du coup, j'ai essayé de comprendre comment marchait le système du tourisme et le système du tourisme avec ce nouveau média qui est YouTube. Donc ça a mis du temps à un petit peu comprendre en parlant avec les agences, en parlant avec les destinations, etc. Et ma communauté commençait à grossir, donc je me suis dit si je voyage et que je crée du contenu, j'aimerais être payée parce que c'est une nouvelle forme de publicité pour les destinations et pour les agences. Donc maintenant, le but, ça va être de créer des projets sur mesure et des projets de qualité autour d'une destination. Ce n'est pas parce que c'est du voyage que ça n'en reste pas moins des budgets derrière. Ces destinations-là, elles vont peut-être faire de l'affichage en 4x3 dans le métro. Et nous, on est un nouveau média et elles ont aussi envie d'être sur ces médias-là. Donc j'ai commencé à être un petit peu, de faire partie de ces listings de gens qui voyagent et qui créent du contenu. Et en plus avec l'angle 1, 2, 3, l'angle écolo, c'était un petit peu, c'était un peu contrastant parce que voyager et être écolo, c'est clairement pas facile dans la tête de certaines personnes. Donc même moi, c'était compliqué de me dire je veux bien faire, je veux aller quelque part et pouvoir parler d'un sujet, mais je peux pas le faire depuis mes toilettes. Donc voilà.
Ushuaïa,
ouais. Ouais. Donc du coup, je me posais 1000 questions à l'heure, mais je voulais continuer à voyager. C'était impossible. Voyager autrement, oui, mais je voulais continuer à voyager. Et à poser peut-être mes conditions avec les destinations. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. En fait.
Et tu disais que t'étais une des premières à avoir eu ce créneau, écologie, voyage, youtubeuse.
Je pense que peut-être personne n'a osé vraiment se lancer sur ce créneau-là. Il y en a maintenant, hein, mais je pense que c'était difficile de s'auto-proclamer quoi que ce soit. Moi, je ne me suis jamais auto-proclamée. Je disais juste très sincèrement aux destinations et à mon entourage et à ma communauté que je veux aussi parler d'environnement, quoi qu'il arrive. Donc, que ça plaise ou pas que je voyage pour parler de telle ou telle situation quelque part, je continuerai à parler d'environnement. Mais ça contraste trop. Les deux ensemble, des fois, ne collent pas dans la tête des gens. Donc, c'était mon travail aussi d'en douceur, parler de plein de sujets et d'être sur ce créneau-là. C'est important. Il faut qu'on soit plus, en fait. C'est trop dommage de se dire que l'un peut pas aller avec l'autre. C'est dommage. Donc voilà.
Et aujourd'hui, comment tu répartis ton temps entre vidéos que tu fais toi-même et vidéos que tu fais pour des marques
Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé pour les autres parce que ça me plaît de créer des projets, d'avoir des idées, de créer du contenu pour les autres. Mais c'est pas ce qui remplit mon cœur fondamentalement. Ce qui remplit mon cœur, c'est de partir. Ce qui remplit mon cœur, c'est de parler d'un sujet très précis, que ce soit les tortues, le réchauffement climatique, les éléphants. C'est juste que j'ai fait pas mal de collaborations qui m'ont permis vraiment de vivre, de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pouvoir faire mes projets. Enfin, par exemple, quand on est parti en Zambie, voir la levée de fonds qu'on avait fait pour planter une forêt, si j'avais pas eu un tout petit peu d'argent derrière moi, j'aurais pas pu y aller, j'aurais pas pu faire mon contenu là-bas. Donc il y a parfois certaines collaborations, même qu'on choisit minutieusement, qui nous permettent de faire des projets perso. C'est hyper important parce que sans ces collaborations qu'il faut bien choisir, bien évidemment, il faut qu'elles collent avec nos valeurs, et on ne pourrait pas faire certains projets perso.
Bon Léa, ça fait une heure qu'on discute ensemble. Qu'est-ce que, au regard de tout ton parcours comme ça, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens qui nous écoutent ?
Qu'est-ce que j'aimerais transmettre aux gens qui nous écoutent ? C'est tellement fou d'être écouté.
Là, il y a moi qui t'écoute. Hein.
Et Joe et Colette. Non, c'est juste génial d'avoir aujourd'hui tous ces outils pour partager. Partager, c'est super important. C'est à la base de pourquoi on crée du contenu, qu'il soit audio ou vidéo. Et c'est important, moi c'est ce qui me remplit de joie de me dire qu'on peut échanger autour de plein de sujets, que tout le monde a la liberté de donner son opinion. Bon, des fois il y en a qui devraient peut-être pas les dire très très fort, mais je trouve ça important de pouvoir échanger et de pouvoir s'écouter, d'être bienveillant et de se voir.
Et on dit qu'aujourd'hui, j'ai plus en tête le pourcentage exact, mais 80% des métiers n'existent pas encore. C'est un peu l'illustration de ça, finalement, dans le passé, retour vers le futur, je sais pas. Tu as vécu ça pour nous,
Mais d'ailleurs, je suis un hologramme. C'est la même société qui a fait Mélenchon.
C'est la même. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre aux parents dont les enfants ne savent absolument pas quoi faire ou au contraire, qui ont une passion et qui ne sont pas adaptés au système scolaire actuel ?
Je pense qu'il n'y a rien à faire si votre enfant il est attiré par tel ou tel corps de métier, même s'il n'existe pas vraiment encore, ou s'il pense qu'il y a quelque chose à faire quelque part, qu'il en est persuadé. Moi, j'étais juste persuadée que je ne pouvais pas rester dans le système scolaire classique. Donc, il faut écouter ses enfants parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment le système scolaire classique est la seule solution, je pense pas du tout même, et il existe plein d'autres façons de s'épanouir. On n'est pas intelligent parce qu'on est allé à l'école toute sa vie, donc je pense qu'il faut être un peu plus indulgent avec ces nouveaux métiers, et après c'est chacun en fait ce qu'il a envie d'en faire, mais voilà, il faut être attentif et se dire que c'est pas parce qu'on finit pas ses études qu'on est bête.
Et c'est quoi ton actualité, Léa, en ce moment ?
Mon actualité est que je vais à Tchernobyl parler des chiens qui ont été abandonnés le jour où tout le monde est parti. Et il se trouve que ces chiens-là et ces chats-là ont eu d'autres petits. C'est cette nouvelle génération du coup qui habite à Pripyat, à côté de Tchernobyl. Et il y a une association qui s'en occupe, parce que ce sont des chiens radioactifs, mais qui nous explique comment ils peuvent être décontaminés et être adoptés, du coup. Il y en a quelques rares cas qui ont été adoptés. Donc je vais là-bas pour un petit peu mener l'enquête et on va vous en dire plus sur ces chiens de Tchernobyl.
Bon, écoute, je mettrai dans les liens tous les lieux où on peut te suivre.
Oui.
Et puis, merci beaucoup, Léa, de m'avoir accordé tout ce temps.
Merci à toi. Oh là là, je suis désolée, j'ai trop parlé.
Ah non, me dis pas ça. C'est parce qu'en fait, oui, effectivement, la vidéo était au bout, mais ça, c'est à cause de moi, je connais pas mon logiciel. Voilà. Bon, à bientôt, Léa.
À bientôt.
Ciao.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles sur les différentes plateformes de téléchargement. Et vous pouvez également me laisser un commentaire ici ou sur ma page Instagram @madameparle. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.